Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'art d'être heureux, aussi désigné comme une démonologie, rassemble des notes posthumes de Arthur Schopenhauer, édité sous la forme de 50 règles de vie. Ce bref traité ne propose pas une méthode de réalisation personnelle au sens contemporain. Il examine plutôt les conditions modestes qui permettent de réduire les maux ordinaires de existence. Pour Schopenhauer, une félicité intense et durable reste hors de portée, car le désir humain engendre sans cesse manque, frustration et ennui. La sagesse pratique consiste donc moins à poursuivre les plaisirs qu'à prévenir les souffrances évitables. Le texte s'inscrit dans le prolongement de traditions antiques, notamment stoïciennes, tout en conservant le regard désabusé propre aux philosophes. Il aborde la santé, les attentes, le caractère, la maîtrise de l'imagination, le rapport au destin et au jugement social. Inachevé et reconstitué à partir de manuscrits, le livre se lit comme un ensemble de maximes argumentées plutôt que comme un système philosophique continu. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, redéfinir le bonheur comme diminution des souffrances évitables, le point de départ du livre est volontairement anti-idéaliste. Schopenhauer ne présente pas le bonheur comme une accumulation de joie, de réussite ou de possession. Il le conçoit surtout de manière négative, comme une relative absence de douleur physique et psychique. Cette définition découle de son diagnostic général sur le désir humain obtenir ce que nous voulons apporte un soulagement passager, puis laisse place à de nouvelles attentes ou à ennui. Dès lors, viser une satisfaction permanente revient à se condamner à la déception. Les règles proposées cherchent plutôt à réduire exposition aux pertes, aux regrets et aux conflits inutiles. Cette perspective ne commande pas le désespoir. Elle invite à évaluer les biens selon leur capacité réelle à préserver une existence supportable. La santé, la sécurité matérielle suffisante, le calme intérieur et des relations peu destructrices prennent ainsi davantage de valeur que le prestige ou les plaisirs intenses. Cette logique oblige aussi à comparer les avantages espérés avec leurs coûts probables. Un choix raisonnable est celui qui ne sacrifie pas durablement la tranquillité pour un gain fragile. Le livre se distingue donc des discours promettant une joie continue, sa sagesse est préventive. Lucide et centré sur la limitation du dommage plutôt que sur une promesse de plénitude. Deuxièmement, abaisser les prétentions pour neutraliser la déception, Schopenhauer accorde une place centrale au rapport entre nos attentes et notre expérience réelle. Une grande part du malheur, selon lui, ne provient pas seulement des événements, mais de la distance entre ce que nous exigeons et ce que nos moyens, notre situation ou le hasard permettent. Il recommande donc de régler ses prétentions avec sobriété. Il ne défend pas une résignation aveugle, mais une estimation plus juste de ses capacités et des conditions extérieures. L'ambition devient nocive lorsqu'elle transforme toute limite en humiliation et tout résultat ordinaire en échec. Cette règle vise également l'imagination, qui amplifie aussi bien les scénarios de catastrophe que les rêves de réussite exceptionnelle. Dans les deux cas, esprit cesse de traiter le présent avec mesure. Anticiper les difficultés peut conduire à préparer des réponses concrètes. Fantasmer sans cesse une vie idéale rend plus vulnérable au réel. Le philosophe privilégie ainsi une prudence qui protège de surprises destructrices, sans prétendre supprimer toute adversité. Cette position est exigeante car elle contrarie la valorisation moderne de aspirations illimitées. Elle possède néanmoins une cohérence pratique, celui qui mesure ses projets à ses ressources conserve davantage de liberté pour apprécier ce qui est effectivement accessible. La modération des attentes devient alors une technique de stabilité intérieure, non une glorification de la médiocrité. Troisièmement, donner priorité à la santé et au tempérament sur la fortune. Parmi les biens qui conditionnent une existence acceptable, Schopenhauer place la santé au premier rang. La richesse, la réputation et les honneurs peuvent améliorer certaines circonstances, mais ils ne compensent pas durablement une souffrance corporelle, une faiblesse nerveuse ou une humeur constamment accablée. Cette hiérarchie est importante, elle déplace attention des signes extérieurs de réussite vers les conditions concrètes de l'expérience quotidienne. Un individu disposant de peu de biens mais jouissant de vigueur, de sommeil, de calme et de capacité de plaisir simple peut être mieux loti qu'une personne comblée socialement mais malade ou agitée. Le traité souligne aussi le poids du tempérament et du caractère. Chacun vit les mêmes événements à travers une sensibilité propre. Un revers léger peut déstabiliser fortement une personne et laisser une autre relativement intacte. Schopenhauer ne suppose pas que le caractère puisse être entièrement refaçonné par volonté. Sa recommandation est plus réaliste : connaître ses dispositions, reconnaître ses limites physiques et intellectuelles, puis organiser sa conduite en conséquence. Cette connaissance de soi évite de poursuivre des modèles inadaptés ou de gaspiller ses forces dans une compétition étrangère à ses aptitudes. La sagesse pratique commence ainsi par la protection de ce que l'individu est, plutôt que par la poursuite anxieuse de ce que les autres semblent posséder. Quatrièmement, se détacher du regard social et des biens de représentation, le livre distingue implicitement la valeur de l'individu, ses possessions et images qu'il offre aux autres. Schopenhauer se montre particulièrement méfiant envers cette dernière dimension. La recherche de considération, de rang ou de gloire donne au jugement extérieur un pouvoir excessif sur humeur personnelle. Or, ces jugements sont instables, partiels et souvent liés à des conventions sociales plutôt qu'à une évaluation profonde. Fonder son équilibre sur admiration ou approbation expose donc à une dépendance difficile à satisfaire. Le philosophe ne nie pas que la réputation puisse avoir une utilité sociale. Il conteste surtout son élévation au rang de bien suprême. Cette critique a une portée pratique, préserver son temps, sa santé ou son indépendance peut être plus judicieux que défendre avec acharnement une image publique. Elle invite également à distinguer les besoins réels des besoins produits par la comparaison. Beaucoup de tourments naissent du désir de paraître plus riche, plus admiré ou plus important que autrui. En ramenant attention vers les ressources intérieures et les conditions immédiates de tranquillité, Schopenhauer propose un critère moins spectaculaire mais plus stable. Cette position peut sembler austère, car elle réduit la place de la reconnaissance collective. Elle reste cependant cohérente avec son projet, la paix de l'esprit ne doit pas être suspendue aux opinions changeantes ni aux hiérarchies que le hasard social peut renverser. En dernier lieu, pratiquer une lucidité active face au hasard et au cours de l'existence. Schopenhauer demande de prendre au sérieux la part du hasard dans les revers comme dans les succès. Cette idée ne conduit pas nécessairement à inertie. Elle distingue ce qui dépend de la préparation, du jugement et de la conduite, de ce qui échappe à toute maîtrise. Souffrir devient plus intense lorsque l'individu interprète chaque échec comme une faute personnelle ou croit pouvoir garantir tous les résultats par effort. Le traité conseille donc une forme de prévoyance, considérer les issues défavorables, prendre des mesures raisonnables pour les limiter, puis accepter les événements qui ne peuvent être corrigés. Cette discipline concerne aussi la gestion des pensées. La rumination sur le passé et la projection anxieuse vers l'avenir multiplient des peines qui ne sont pas toujours présentes. Schopenhauer valorise une attention plus circonscrite aux moments vécus et aux tâches possibles. Il ne promet pas un contrôle total de l'esprit, mais montre que l'imagination non disciplinée peut devenir une source autonome de malheur. Le recours aux maximes antiques donne à cette démarche une dimension éthique, il faut apprendre à supporter les coups du sort sans y ajouter le désordre de exigences irréalistes. Cette lucidité active est la tension principale du livre. Elle combine prudence et acceptation, calcul des risques et reconnaissance des limites. Sa finalité est une vie moins exposée aux illusions, non une vie immunisée contre toute peine. En conclusion, L'Art d'être heureux conviendra au lecteur qui cherche une philosophie pratique sans promesse de transformation miraculeuse. Il intéressera particulièrement les personnes curieuses de découvrir un versant plus directement utilisable de Schopenhauer, ainsi que celles qui apprécient les traditions de sagesse antique, la réflexion sur les désirs et la critique des normes sociales. Sa lecture peut aider à examiner ses attentes, à mieux hiérarchiser santé, repos et indépendance, puis à distinguer les difficultés modifiables des faits qui exigent acceptation. Le bénéfice du livre est moins de fournir un programme à appliquer mécaniquement que de déplacer le critère de réussite une existence bonne, peut-être une existence où les souffrances superflues ont été limitées. Cette thèse peut déranger, notamment pour son pessimisme et pour le poids accordé au tempérament ou au destin. Certaines formulations portent aussi les marques de leur époque et demandent une lecture critique. Mais ce sont précisément sa sobriété et son refus de flatter le lecteur qui le distinguent de nombreux ouvrages consacrés au bonheur. Là où les livres de bien-être privilégient souvent confiance illimitée, ambition et pensée positive. Schopenhauer insiste sur la fragilité des satisfactions et sur la valeur de la mesure. Ce petit texte posthume et inachevé ne promet pas la félicité parfaite. Il propose une éducation du jugement, orientée vers la lucidité, la prudence et une paix relative. Si vous souhaitez soutenir Arthur Schopenhauer, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.